La première, 16h-17h30.
Sérieux délire.
Sérieux délire, Cédric Wautier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la première. Excellente fin d'après-midi à toutes et tous. L'homme que nous allons recevoir aujourd'hui a un CV qui fait peur à tout étudiant ou futur étudiant. Régulièrement invité dans les médias en tant que spécialiste de l'économie, il est économiste bien entendu, ancien président de la Bourse de Bruxelles, ancien directeur de cabinet du ministre des Finances, auteur d'une soixantaine d'ouvrages traitant d'économie. L'homme est également prof à la Vléric School, à l'ULB, à l'UCL et l'ICHEC. Il est toujours sapé comme un prince, derrière des lunettes chic et tendance, cravate rose, chemise à carreaux. Aujourd'hui, c'est selon Nicolas Vado, un type à inviter un souper tellement il est drôle. On va donc voir aujourd'hui si Bruno Coleman va se lâcher. Nous, en tout cas, on est ravis de l'accueillir et on est ravis de passer ce moment avec vous. Bruno Coleman, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir, ravi de gratter un petit peu ce qui se cache derrière ce joli costume et derrière cette façade d'économiste très très sérieux hein, que l'on invite tout le temps dans les médias. Lorsque je vous ai téléphoné pour préparer cette émission, vous étiez mort de rire. En repensant à certains extraits, mais aussi en repensant à ce qui s'est passé il y a quelques semaines. C'était un jour où on avait cru qu'il y avait un attentat, ou en tout cas une alerte à la bombe à Bruxelles. Et vous veniez de découvrir que la ceinture d'explosifs était bourrée de biscuits. Et ça vous fait rire.
Ça me fait rire énormément parce que j'aime bien l'humour extravagant, l'humour de rupture, l'humour de l'absurde. Et en fait, toutes les scènes singulières, les scènes inattendues me font fort rire. Donc avoir quelqu'un effectivement qui met en joue tout le pays avec des biscuits et du sel dans sa ceinture, c'est plutôt drôle.
Et c'est très belge.
Et puis on a ça parfois dans d'autres pays. Hein. Il y a beaucoup de choses qui me font rire, comme par exemple celui qui faisait les gestes du discours de la mort de Mandela.
Oui.
Il y a eu Comic Ali en Irak, là, qui était le ministre, qui disait que Bagdad n'allait pas être envahi alors que les Américains étaient à 300 mètres. Il y a Yves Le Terme aussi quand il a chanté la Marseillaise. Donc, ouais. Toutes ces scènes me font rire parce qu'elles sont inattendues et qu'on est vraiment dans l'absurde le plus complet.
En matière d'humour, vous aimez la BD, certainement Gottlieb, Achille Talon et les idées noires de Franquin.
Oui, en fait, j'ai été éduqué par une mère très austère. Je crois que si elle avait pu être calviniste, elle l'aurait été. Mais malheureusement, elle n'aime pas beaucoup l'Église. Et son espace de liberté, c'était la BD. C'était Spirou. Mais c'était les BD. Et donc, j'ai été nourri par les BD de Gilles Jourdan, de Lucky Luke, de Ricochet. Et donc, je suis arrivé assez rapidement, quand j'avais 13-14 ans, à Gottlieb. Mais ce n'est pas tout le Gottlieb que j'aime. J'aime le Gottlieb où, en fait, on voit un homme normal qui, tout d'un coup, devient fou. Et donc, qui se transforme psychologiquement, physiquement, jusqu'au paroxysme de la fin de la planche.
C'était un peu votre cas, hein, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais vous avez aussi signé un bouquin, 50 nuances d'aigris, scène grinçante de la vie en entreprise, croquée par vous et par Pierre Kroll. On va en parler dans quelques instants. C'est un bouquin à mourir de rire, même si vous avez en effet un humour très grinçant et très noir sur le monde de l'entreprise et de l'économie.
Oui, c'est un livre que j'ai écrit quand j'étais président de la Bourse en 2008, c'est-à-dire à l'époque du grand crash. Et en fait, on m'avait dit, c'est un job qui est parfait pour toi parce que c'est un job de pensionné, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste que tu arrives le matin et que tu partes le soir et tu auras tout le temps qu'il te faut pour donner tes cours à l'université. Donc, ça me convenait bien. Et puis, la crise est arrivée. Et là, on a vu d'abord les lourds bilans de Wall Street se fissurer. On a vu les subprimes qui éclataient au ras du sol comme des shrapnels. Et j'ai été confronté à un capitalisme que je ne connaissais pas, c'est-à-dire un capitalisme d'hommes d'affaires que je voyais polissés et bien habillés dans des cocktails, mais qui tout d'un coup avait un visage qui grimaçait, parce que Fortis ne valait plus grand-chose. Et donc, ils venaient me demander conseil. Et donc, j'ai vu un autre monde, et ce monde m'a tellement pétrifié, m'a tellement interpellé, que j'ai commencé à prendre, avec mon Moleskine, note de toutes les scènes que je voyais. En fait, j'ai récolté, je crois, 70-80 scènes, dont je m'étais dit que je ne pourrais jamais les publier parce que ma compagne de l'époque m'avait dit « si tu publies ça, tu seras sans emploi ». En fait, tu casses les codes, tu révèles ce que personne n'ose dire, à savoir que derrière les chiffres, derrière les belles voitures et les chauffeurs, il y a des hommes en souffrance. Et donc, je m'étais engagé à ne pas le publier. Et c'est en fait en le faisant lire par Pierre Kroll que Pierre m'a conseillé de le faire, mais à la seule condition, lui ai-je dit, qu'il illustre certaines images, ce qu'il a fait. Et donc, on a travaillé le texte ensemble et on a réduit ça à 50 textes, et d'où le titre 50 nuances d'aigris.
On va parcourir ce bouquin ensemble durant toute cette émission. On va commencer par un premier extrait qui traite évidemment d'économie. Je ne sais pas quel genre de prof vous êtes, mais Arnaud de Samer, lui, est plutôt de ce style.
Donc, pour relancer l'économie, il faut à la fois travailler plus pour augmenter le pouvoir d'achat et à la fois avoir plus de temps pour effectuer les achats, dont on vient à l'instant d'augmenter le pouvoir. C'est pourquoi je me suis dit que 7 jours dans une semaine, c'était beaucoup trop court pour à la fois travailler plus et à la fois avoir plus de temps. J'ai donc décidé de créer un jour supplémentaire dans la semaine, le curdi, que j'ai placé juste après le mercredi, qui est le jour des enfants et auquel on ne peut pas toucher, puisque ça leur appartient. Ce qui nous donne la semaine suivante, lundi, mardi, mercredi, curdi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bien ! Puisqu'il fallait également pouvoir profiter de ce nouveau pouvoir d'achat, j'ai décidé de créer un jour supplémentaire dans le week-end, le glamanche, que j'ai placé juste après le dimanche, qui est le jour du Seigneur, et auquel on ne peut pas toucher, puisque ça lui appartient. Et... d'ailleurs, le glamanche permet d'éviter le fameux blues du dimanche soir. Eh oui, puisque le dimanche n'est plus veille de reprise du travail. Et personne n'osera déprimer un glamanche. Qu'est-ce que tu as fait, glamanche ? J'ai déprimé. Ça n'a aucun sens. Non, non. On dira plutôt, qu'est-ce que tu as fait, glamanche ? Eh bien, je me suis promené, je me suis reposé ou j'ai acheté une voiture. Bravo, monsieur. Une vente de plus pour l'usine de voitures qui a travaillé d'arrache-pied tous les curdis soirs jusqu'à 27h. Oui, parce que la journée du curdi dure 41 heures. Quitte à rajouter une journée de travail, autant que ce soit productif. Bien, alors, d'après mes calculs, ces 2 jours supplémentaires rapporteront à l'État environ 667 millions et quelques d'euros par an. Ce qui est bien, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. J'ai donc décidé de créer 2 mois supplémentaires dans l'année, les mois de Grouvier et de Javembre. Ce qui nous donne, s'il vous plaît, c'est pénible. Ce qui nous donne l'année suivante, janvier, février, Grouvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, Javembre, décembre. Ça va ? Bien, alors, le seul petit problème que ce projet va rencontrer, c'est que cela va sensiblement décaler les fêtes de Noël, On va se retrouver à faire nos achats de Noël au mois de Javembre, ce qui n'est pas chose aisée puisque le mois de Javembre ne dure qu'une semaine. Combien de jours dans une semaine ?
Arnaud de Samer, le cours d'économie et puis cette invention, le curdi, etc. Est-ce que vous trouvez que les humoristes, de manière générale, s'emparent bien de la notion d'économie et puis parlent bien de la crise qui nous entoure ?
Oui, je crois. Je suis toujours frappé d'ailleurs par la compréhension presque limpide qu'ils ont de cette crise et de l'économie. Je me souviens me souvenir d'un dessin de Pierre Kroll qui montrait en fait par un système de poulies comment marchait le keynésianisme, à savoir qu'on devait donner le pouvoir d'achat pour, simuler un peu de croissance. Et puis à Nicole Avado qui a aussi une vision très, très lucide, presque impitoyable de la crise de l'économie. En dévoilant en fait les douleurs de cette crise, les injustices. Donc oui, je crois qu'ils voient les choses de manière plus simple, alors que nous, économistes, on a tendance à chercher des théories pour se rassurer et finalement rentrer les faits dans des principes qui sont bien établis et qui sont tous évidemment faux et caduques.
Bruno Coleman, on va découvrir votre premier coup de cœur juste après ceci. Notre invité du jour est Bruno Coleman, économiste, professeur dans toute une série d'universités et un homme qui aime rire. Il est aussi l'auteur de 50 nuances d'aigris, paru aux éditions Renaissance du livre, dont on parlera dans quelques instants. Vous avez parlé d'un humour de décalage tout à l'heure. Il y a aussi un genre d'humour que visiblement vous affectionnez, c'est l'humour anglais, exemple avec les Monty Python.
Now stand aside, worthy adversary.
'Tis but a scratch.
A scratch? Your arm's off.
No, it isn't.
Well, what's that then?
I've heard worse.
You liar!
Come on, you pansy!
Victory is mine! We thank thee, Lord, that in thy mouth...
Come on, then!
What?
Have at you!
You are indeed brave tonight, but the fight is mine.
Oh, had enough, eh?
Look, you stupid bastard, you've got no arms left.
Yes, I have.
Look!
It's just a flesh wound.
Look, stop that!
Chicken! Chicken!
Look, I'll have your leg. Right!
Right, I'll do you for that.
You what?
Come here!
What are you gonna do, bleed on me?
I'm invincible!
You're a loony.
The Black Knight always triumphs! How about you? Come on, then. What? All right, we'll call it a draw.
Come, Patsy.
Oh, I see. Running away, eh? You yellow bastard! Come back here and take what's coming to you! I'll bite your legs off!
Extrait de Sacré Graal des Monty Python, cette scène ô combien hilarante, hein, où il y a ce combat entre le roi et ce chevalier noir qui perd un bras, un deuxième bras, une jambe, etc. et qui continue à se battre, etc. Pourquoi les Monty Python?
Parce que c'est l'absurde le plus complet. C'est en fait des scènes, j'en ris rien qu'à y penser, en fait, où il n'y a pas d'aboutissement. Il n'y a pas d'aboutissement, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'on arrive à un cataclysme et que de manière volontaire, les hommes s'y précipitent. Et c'est cet humour-là que j'aime bien finalement, c'est l'humour anglais où on arrive à sortir du quotidien. Et d'ailleurs, je me suis souvent dit que c'est grâce à cet humour que les Anglais avaient tout inventé. Ils ont inventé les Beatles, ils ont révolutionné la musique, la littérature. Donc ils ont été comprimés pendant des siècles et des siècles par l'oppression morale et surtout sous Victoria. Et puis quand Victoria est morte, je crois, en 1901, tout d'un coup, ben, tout s'est déchiré, tout s'est révélé. Et les Beatles, ce sont de lointains descendants, finalement, de la période victorienne à laquelle ils ont échappé.
Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous aimez ce genre d'humour et puis vous aimez un humour très franchouillard, celui de Berruyer dans San Antonio.
Ah, je crois que j'ai lu, quand j'étais à l'université à Solvay, tout San Antonio. C'est-à-dire que j'ai tout lu. Et finalement, c'était mon évasion, ma lecture de chevet. On s'est changé d'ailleurs entre amis, tous les Berruyer et les San Antonio. Et je me suis toujours dit que cet homme avait une capacité d'imagination extraordinaire parce qu'aucun San Antonio ne ressemble à un autre. Et en fait, il faut tous les lire pour bien comprendre la trame, pour comprendre l'histoire. Son fils, je trouve, a repris la collection, mais avec un peu moins de succès. Et donc, finalement, San Antonio m'a fort impressionné parce qu'il avait montré lui-même la tombe dans laquelle il avait choisi de se faire enterrer en disant qu'il fallait faire attention en marchant dessus parce qu'il ne fallait pas qu'en plus, il meure en se cassant la pub sur sa propre tombe.
Meilleur titre de San Antonio, selon vous?
C'est du bois dont on fait les pipes. Je m'en souviens encore. Ceci porte un message. T'as tout bien compris.
Il y a aussi bouge ton pied que je vois la mer. J'ai bougé mon pied. Elle a vu la mer. Comme ça, vous avez nos deux coups de cœur. Vous avez parlé de Kroll tout à l'heure, qui a co-écrit ce bouquin. Enfin, en tout cas, qui a participé à cet ouvrage en signant toute une série de dessins. Ben, on va l'écouter, Kroll, dans Un samedi d'enfer.
C'est tellement facile de prendre le contre-pied, Myriam, pour rire et, par exemple, de trouver des raisons d'aimer Donald Trump, alors que moi, je vais devoir énoncer l'avis commun et le plus banal qui soit, être contre ce type dont la chevelure rappelle les pulls en mohair que portait Anne Sinclair au JT dans les années 80 et dont le programme politique fait parfois passer Laurent Louis pour Edgar Morin. Devrais chaque semaine rappeler que je n'aime pas la pluie, ni boire du lait tourné, ni tomber à vélo sous un tram, que je refuserais de coucher avec une morte en putréfaction ou de partir en camping avec Cyril Hanoula, je ne sais même pas ce qui est le pire des deux d'ailleurs. Eh bien soit, de fait, je n'aime pas Donald Trump. Voilà, je suis contre Donald Trump et Trump, et j'ai peur que ce type soit président des États-Unis. Mais peut-être pas pour ce que vous croyez. J'ai peur avant tout que sa coiffure devienne à la mort. Vous imaginez, moi, j'ai peu de chances d'y arriver. Même avec un sèche-cheveux de la puissance d'un moteur de F-16, ça aurait pu ramener autant de cheveux sur l'avant. Mais bon, quand ça prendra à François de Brigode, ce truc, comment est-ce qu'on peut regarder le JT sans rire du début à la fin? Bon. Vous imaginez votre voisin, votre patron, votre beau-frère, votre mec peut-être, Myriam, avec cette espèce de Sky Terrier sur la tête. Donc je vous conseille d'aller voir sur Internet ce que c'est qu'un Sky Terrier, c'est tout à fait ça. Et pour les plus âgés, vous pouvez se dire c'est le chien qu'il y a dans le manège enchanté qui s'appelle Pollux. Alors son prénom déjà, bon je sais, il n'en est pas responsable, ce sont les parents qu'il faut bannir. Mais un président qui a le nom d'un canard, ça va faire sérieux face aux Chinois ça. Hein, bon. Et puis ce type ne va jamais assez loin, c'est ça que je n'aime pas chez lui. En 2012, il a déclaré qu'une source sûre lui avait révélé que l'acte de naissance de Barack Obama était un faux. Mais il n'a jamais dit toute la vérité, que Barack Obama n'était pas plus noir qu'Homer Simpson. Hein. Obama, il se maquille tous les matins pour avoir juste ce teint pile poil entre Eminem et Eddie Murphy. Le truc parfait pour plaire à tout le monde. Et ça, personne n'a encore osé le dire par peur de prendre l'une ou l'autre communauté sur le dos. Donald Trump, en parlant de sa fille Ivanka, il a dit « Si c'était pas ma fille, je sortirais avec. » Mais vas-y mon vieux, quoi. Ramsès II a eu des enfants avec au moins deux de ses filles. Et c'est pas n'importe qui quand même, Ramsès II. Vois grand Donald, quoi, au lieu de rester dans cette morale étriquée. Trump a déclaré haut et fort que le Mexique n'envoyait aux États-Unis que de la drogue et des violeurs. Il a oublié toutes ces femmes moches à moustache qui sentent le tacos aux oignons et font le ménage à Miami pour trois fois rien en chantant la cucaracha. Il a dit, Trump, qu'il ferait construire un grand mur entre les États-Unis et le Mexique et qu'il le ferait faire par les Mexicains. Mais attends, on fait le payer par toute l'Amérique du Sud, oui. Ce sous-continent de travelo carnavalesque, d'Indiens emplumés qui jouent de la flûte de Pan au lieu de bosser dans les mines, sans parler de ceux d'Amazonie qui s'évertuent à vouloir habiter là où on pourrait faire des autoroutes et des centres commerciaux juste pour se soigner avec des orchidées et domestiquer des papillons, je vous demande un peu. Donald fait rêver l'Amérique, bon sang. Promet que Leonardo DiCaprio marchera sur Mars avant Noël 2017. Qu'à la fin de ton mandat, il restera au maximum autant d'islamistes dans le monde que de rhinocéros blancs du Nord, c'est-à-dire un mâle impuissant. Annonce que tu feras du pôle Nord tout entier fondu de l'eau minérale, de la Lune un parc d'attractions et du Moyen-Orient, je sais pas moi, un parterre de fleurs, de l'ambition, que diable Donald. Vraiment, ce type est trop modeste, trop écolo, trop à gauche, trop pacifiste, trop subtil, trop classe pour incarner l'Amérique qu'on aime détester.